cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe le 12 octobre l'an 2000 à Saint-Jodard.
Je vais traiter ça maintenant. Donc, nous avions vu qu'il y a une philosophie, une réflexion philosophique propre sur l'activité humaine. Je voudrais vous montrer maintenant que cette réflexion philosophique sur l'activité humaine implique trois niveaux pour nous et qu'il est important de respecter ces trois niveaux. Comme la foi ne remplace pas la métaphysique, la foi ne remplace pas l'éthique. Parce que je pourrais dire, il y a la loi dans l'Ancien Testament, il y a les béatitudes dans le Nouveau Testament, il y a une morale chrétienne qui suffit à tout. Alors vraiment, pourquoi faire cette recherche philosophique sur l'acte humain? Croyez bien que c'est de fait, ce qui existe constamment. On remarque ça, qu'il n'y a pas de réflexion. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement gênés dans l'éducation morale aujourd'hui. On ramène tout à l'éthique chrétienne, comme s'il n'y avait pas d'éthique morale, qu'il n'y avait pas d'éthique philosophique. Vous voyez ? Autrement dit, le fidéisme, Paul VI, auquel j'ai assisté qu'à une seule audience, on était avec des philosophes et des théologiens. Et ça m'a beaucoup frappé. Paul VI a dit ouvertement, le plus grand danger dans l'Église actuellement, c'est le fidéisme. Fidéisme au plan spéculatif, fidéisme au plan pratique. Le plus grand danger pour l'Église. Alors, le fidéisme au plan spéculatif, le Saint-Père a dit avec force, l'Église n'a pas de philosophie. C'est comme net. Hein? Aucun pape ne l'a dit aussi nettement que le pape actuel. Et c'est en continuité directe avec la condamnation du fidéisme. Le fidéisme, c'est faire croire, c'est croire que la foi remplace la philosophie, que la foi remplace l'éthique. Et donc, il faut être croyant. Oui. Il faut être croyant, je suis tout à fait d'accord pour la théologie, mais la théologie n'existerait pas s'il n'y avait pas de philosophie. Et saint Thomas l'a bien montré, il a quitté Avicenne, alors que c'était celui qui que tout le monde acceptait. Saint Thomas n'aurait pas été condamné par la Sorbonne s'il avait suivi Avicenne. Et s'il avait pris Avicenne comme philosophe, il a été recherché le vieil Aristote, le païen. Et ce païen était plus vrai que Avicenne. Et ce païen montrer avec force ce qu'était la finalité. L'éthique est donc la réflexion sur l'activité morale. L'activité morale, on en est responsable. C'est nos activités où nous sommes maîtres, un dominium. Nous sommes maîtres de ces activités et nous devons respecter la nature humaine dans sa propre finalité, recherche de la vérité. Tout en philosophie morale doit tendre à ce respect. La philosophie morale ne remplace pas la métaphysique, mais elle dispose, elle ne met pas d'obstacle, alors que très souvent, les passions mettent des obstacles à la recherche de la vérité. Parce que toute négation philosophique de Dieu provient d'un a priori affectif. Donc, de la passion ou concupiscible ou irascible. Je crois qu'en toute honnêteté, l'homme, s'il n'arrive pas à découvrir Dieu, doit l'avouer. Mon intelligence ne me permet pas d'arriver à cette affirmation. Mais je ne peux pas nier Dieu. Nier Dieu n'est pas philosophique. C'est une affirmation qui est a priori. Et c'est une affirmation que constamment, dans le climat d'aujourd'hui, on a tendance de le faire. Des quantités d'athées ne savent pas très bien ce qu'ils ont fait. Heureusement pour eux, du reste. Philosophiquement, je ne peux pas nier l'existence de Dieu. Puisque philosophiquement, je ne peux pas nier ce que je ne connais pas. Alors celui qui nie Dieu, il ne sait pas ce qu'est Dieu. Il nie un fantôme. Il nie un symbole. Il nie une image. Il ne sait pas ce qu'est Dieu. S'il savait ce qu'est Dieu, nécessairement, il dirait qu'il existe. S'il savait ce qu'était Dieu, ce que représente la signification du nom Dieu, or la plupart du temps, il part d'une donnée fausse. Alors, première partie de la morale, la partie fondamentale, l'étude de l'acte moral humain, l'acte dont l'homme est responsable. Tout ce qui relève de l'instinct, instinctif n'est pas moral. cet acte, je crois, est finalisé par l'amitié. L'amitié est la fin de cette morale vertueuse. On verra ça. Finalité humaine, profondément humaine. L'homme est pour l'homme. La finalité de l'homme, c'est d'aimer. Ceci existe. Il existe des quantités d'hommes qui, de fait, ne connaissent pas Dieu. Et ils ont une vie humaine morale. Alors, il y a cette première morale. Elle existe et nous devons comprendre comment et pourquoi elle existe. Elle existe parce que l'amitié, au sens propre, peut être une fin pour l'homme. Une fin peut-être qui n'est pas la dernière, qui n'est pas ultime, mais qui est une vraie fin. Il y a une vraie finalité dans l'homme. L'homme, pour moi, peut être un ami. Et c'est difficile de le nier. Hein. Si vous avez des arguments pour nier ça, essayez de les trouver, ces arguments, et donnez-moi. Ça m'intéresserait. L'homme est pour l'homme une certaine fin dans l'amitié. Et c'est même à cause de cela que je peux fonder la recherche des vertus. La foi, la découverte de Dieu, la découverte de Dieu me donne une nouvelle finalité. J'ai la morale religieuse qui reste humaine. L'homme, pour être parfaitement homme, doit être un être qui reconnaît Dieu et qui l'adore. Ne pas adorer Dieu, laisser Dieu de côté comme quelque chose qui ne fait pas partie de la vie humaine, est une erreur. Une erreur grave. Parce que j'ampute l'homme. Empêcher l'homme de regarder Dieu dans sa vie, de se poser la question, Dieu existe-t-il ou Dieu n'existe-t-il pas ? Il doit le faire. Donc, il y a un second stade de la morale, seconde dimension de la morale, qui est une morale religieuse. Donc je dis, il y a une morale purement humaine, il y a une morale religieuse. Parce que si Dieu existe, l'amour de la finalité se termine à Dieu. Et dans ma recherche intellectuelle, je dois poser l'existence de Dieu. Si je suis fidèle à cette recherche. Et donc une nouvelle dimension de l'activité morale humaine qui regarde Dieu. Dieu, je dois l'adorer. Et une vertu nouvelle tous vertus de religion. Et qui reste strictement humaine. Et il y a une troisième dimension, parce que la révélation du Christ, la révélation tout court, mais qui prend toute sa plénitude dans le Christ, cette révélation implique cette révélation du Christ m'apporte une nouvelle finalité, l'amitié avec Jésus. Et l'amitié avec Jésus assume, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, assume la morale religieuse et assume la morale humaine. Quand je dis assume, c'est-à-dire ne détruit pas, mais la transforme, lui donne une nouvelle finalité, et donc la transforme du dedans. Cette finalité que m'apporte la révélation, c'est d'aimer Jésus qui m'est donné, qui est l'ami et le seul qui me parle. Existant pour moi et changeant toute ma vie en lui donnant une nouvelle fin. Donc, je crois qu'il faut distinguer toujours ces trois finalités, l'homme, l'ami, Dieu, Créateur, le Christ. Le Christ qui me fait connaître le Père, mais qui est une seule finalité pour moi. Aimer le Christ, c'est aimer ce que le Christ aime. Et donc, aimer le Christ, c'est aimer le Père avec le Christ. Et la promesse de voir Dieu, d'avoir comme fin la vision même de Dieu, avoir la même fin que Dieu. Si j'ai trois finalités distinctes, qui ne s'opposent pas en rien, tout ce qui est humain, vraiment humain, doit être religieux. Et tout ce qui est vraiment religieux, peut-être chrétien. Et donc, l'éthique chrétienne présuppose les deux autres. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Mais ne les détruit pas. Jésus le dit très clairement, je ne suis pas venu abolir la loi, mais la perfectionner, l'accomplir. Et la loi était une morale qui regardait, qui était une morale religieuse. Je dois comprendre que ces trois finalités s'emboîtent en quelque sorte, ne se détruisent pas, mais elles viennent perfectionner. C'est une chose. très curieuse que la morale chrétienne. Parce que, est-elle philosophique? Non, puisqu'elle présuppose la foi. Est-elle théologique? Non. Il y a la théologie morale. Et l'éthique chrétienne regarde l'homme. Et en ce sens-là, elle est philosophique. Et elle existe comme philosophie qui regarde l'homme. Tandis qu'au contraire, la théologie morale part de Dieu et de la révélation. L'éthique chrétienne, c'est le regard que j'ai sur ma nouvelle finalité qui m'est donnée par le Christ. Et donc, cette nouvelle partie de la philosophie éthique chrétienne demeure vraiment philosophique. Je puis ajouter et un aspect de la philosophie très important et qui continuera et qui continue d'être un aspect il y a une méthode propre qui est spéciale où je prends le donné révélé matériellement. Je ne pars pas de la foi, mais je pars de mon expérience. Qui exige de regarder que j'ai de fait un appel, que ma finalité est proprement chrétienne. Le Christ est la bonne nouvelle pour l'homme, parce qu'il lui apporte une nouvelle finalité. Donc que l'éthique chrétienne va être une éthique, et même l'éthique la plus parfaite au point de vue humain. Je pourrais comparer cette éthique chrétienne aux autres éthiques religieuses, et je verrais que c'est l'éthique la plus parfaite, comme éthique. Vous voyez, le noyau central qui est le point de vue de l'activité morale demeure. La conscience qu'avoir comme recherche particulière de voir l'acte moral, l'acte humain, transformé par la grâce. Pour faire une éthique chrétienne, il faut que le philosophe soit chrétien. Pas uniquement philosophe, il soit chrétien. Pour pouvoir comprendre ce qu'il est dit, comprendre même matériellement, mais le comprendre, comprendre que j'ai une nouvelle fin. Nouvelle façon. J'ai une fin qui dépasse mes forces humaines, qui m'est donnée par le Christ. À ce point de vue-là, je ne la possède pas. Ma fin humaine, je la possède. Tandis que la fin chrétienne, je ne la possède pas. Il faut même être un mendiant, bienheureux les pauvres. C'est une éthique qui va beaucoup plus loin que toutes les autres. Et elle est basée fondamentalement sur la pauvreté. L'homme chrétien est un pauvre vis-à-vis de sa béatitude chrétienne. L'homme chrétien reçoit gratuitement tout l'évangile, Jésus comme médiateur, et il montre que l'homme est appelé à un bien, à un bonheur divin qui le dépasse complètement, que par lui-même, selon ses forces propres, il serait incapable d'acquérir, qu'il ne peut acquérir que par des forces divines. Vous voyez, la situation de l'éthique chrétienne est très spéciale. Elle est même unique. La métaphysique, elle ne peut pas être chrétienne. Parce que Dieu ne crée pas l'homme différent s'il est chrétien, s'il n'est pas chrétien. Le chrétien apparaît comme connaissant certaines choses beaucoup mieux que le philosophe. Mais il ne change pas la nature de l'être. La réalité est la même pour le chrétien et le non-chrétien. Tandis que la finalité n'est pas la même pour le chrétien que pour le non-chrétien. Et donc, il doit étudier quelle est cette finalité ? Et ce qui est de propre à cette finalité ? Alors, est-ce que cette finalité va transformer sa volonté, son intelligence, tous ses psaumes ? C'est par son intelligence humaine qu'il devra évaluer le comment pour atteindre cette fin. Dans la pratique, il sait que ce sera par le secours de Dieu immédiat. Il le reconnaît. Vous voyez ? La morale stoïcienne affirmait qu'il y avait des héros. Aristote affirme qu'il y a l'épiquie. L'épiquie, c'est entrer dans les intentions de celui qui m'a créé. Et d'entrer dans les intentions de celui qui m'a créé, c'est regarder la présence du Christ. Je ne puis plus, si je suis philosophe, je ne puis plus nier la morale chrétienne. Et la morale chrétienne, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour l'homme. Non, la morale chrétienne est faite pour l'homme, de sorte que le philosophe est coincé. Il est obligé de reconnaître que la morale chrétienne est en fait pour l'homme qu'il y a une morale chrétienne. Négativement, c'est très fort. l'homme moral s'intéresse à l'homme. Et à l'homme dans ce qu'il a de plus lui-même, l'amitié. Donc, il s'intéresse à l'homme, à tout ce qui est le bien de l'homme. Si ce bien est donné par un bienfaiteur, il doit s'intéresser à cela. Si ce bien est donné par le Créateur, il doit s'intéresser à cela. À saisir l'intelligence, l'intelligibilité de ce don que fait le Créateur, le don de la grâce, le don des béatitudes, le don de tout un enseignement moral particulier. Il doit s'intéresser à cela, il n'a pas le droit de dire « cela ne me regarde pas ». Parce qu'alors, il ne s'intéresserait pas à l'homme capable d'être agrandi, d'être perfectionné par le point de vue chrétien. Autrement dit, l'éthique chrétienne considère ce que le christianisme apporte à l'homme, ce que le christianisme perfectionne dans l'homme, ce que le christianisme permet à l'homme d'avoir une taille, une pénétration nouvelle. Or, la foi ne m'apporte aucune nouvelle, aucun nouveau concept. Donc, la foi n'apporte aucun bien à une philosophie spéculative. Je ne suis en rien plus parfait ayant la foi, que quelqu'un qui n'a pas la foi. Je parle au plus parfait directement. Indirectement, c'est autre chose. Mais directement, la foi n'apporte aucune lumière métaphysique. Puisque la foi ne me donne aucun concept supplémentaire. Le jugement d'existence est le même pour l'homme chrétien que pour l'homme non chrétien. Je peux enseigner la métaphysique à n'importe quel homme, même un marxiste, s'il veut bien écouter. Le jugement d'existence est le même. Tandis que ma fin humaine n'est pas la même si je suis chrétien et si je ne suis pas chrétien. Alors, je suis obligé, au point de vue philosophique, d'étudier ce que cette fin chrétienne m'apporte de nouveau. Ce n'est pas d'apologétique. Parce que vous direz très facilement, ben oui, c'est l'apologétique qui fait ça. Je suis un homme non chrétien, je dis, mais quoi, qu'est-ce que vous manquez des choses extraordinaires pour refuser ça sans le connaître ? C'est pas humain, ça. C'est pas philosophe. Non. J'étudie les faits, la réalité. Ce que, de fait, la révélation apporte à l'homme, perfectionne l'homme, permet à l'homme d'être plus homme. d'être un homme, un super-homme. Et la morale chrétienne fait que l'homme est un super-homme. Le désir de Nietzsche, il est un surhomme. Et c'est vrai. Il désire un bonheur auquel l'homme n'a aucun droit. Et ce bonheur est donné à l'homme gratuitement, mais exigeant de lui une attitude nouvelle. Quelle est cette attitude nouvelle? Oui. C'est quelque chose de super-humain qui vaut la peine d'être regardé. Puisque je suis transformé par rapport à ma finalité. Ma finalité n'est plus humaine, elle est divine. Et mon intelligence n'est changée en rien par la foi. La structure de mon intelligence n'est changée en rien par la foi. Je puis donc, en tant que philosophe, étudier ce que Jésus apporte en surabondance. Vous voyez, regardez de cette manière-là, l'éthique chrétienne est très importante. Elle est capitale. Elle est capitale pour le chrétien. Connaître en moi avec exactitude ce qui m'est donné gratuitement, et elle me permet à l'égard d'un croyant, à l'égard de non-croyants, de leur montrer ce qu'il y a d'unique dans le christianisme, ce qu'il y a de tout à fait particulier. Ce que seul le chrétien peut comprendre et comprend. Et tous les autres ne pourront pas. C'est quelque chose. C'est quelque chose d'important à ma vie humaine. De voir que le christianisme apporte une activité nouvelle, un surcroît dans mon activité humaine, par la charité, par l'espérance, par la foi. Mais il ne m'apporte aucune connaissance philosophique nouvelle sur l'homme. Il n'y a pas de concept nouveau. C'est pour ça qu'il n'y a pas de langue chrétienne. Toute langue peut être christianisée. S'il y avait un concept chrétien nouveau, il y aurait un langage chrétien nouveau. Dieu aurait pu le faire. Dieu ne l'a pas fait. Il aurait pu le faire. Il ne m'a pas donné de langage propre. Le chrétien n'a pas de langage propre, comme il n'a pas de philosophie propre. Il a une philosophie humaine. Et la philosophie humaine demande, réclame de voir ce qu'est cette transformation de l'homme par la grâce. Et c'est cela que j'appelle éthique chrétienne. Vous comprenez que l'éthique chrétienne ne remplace en rien l'éthique radicalement humaine et l'éthique religieuse. Elle l'exige. Il y a une éthique radicalement humaine, qui est l'étude de l'homme, les finalités de l'homme. Et je constate qu'il y a deux finalités impératives. Et je constate que l'apport à ma vie humaine ne touche en rien la structure de mon intelligence philosophique. De sorte qu'il ne peut pas y avoir une philosophie chrétienne, mais il y a une éthique dans la philosophie qui est chrétienne. C'est la seule partie. Il y aurait peut-être en philosophie de l'activité artistique, une transformation pour s'il existe une philosophie, un art chrétien. S'il existe un art chrétien, comme il existe une morale chrétienne, il y aurait donc à ajouter à la philosophie de l'art une partie qui serait comme un appendice et qui viendrait s'ajouter à l'éthique de l'art. Ce que je crois, que l'art chrétien existe à cause de la révélation et à cause du mystère de l'incarnation. Il y a une forme humaine nouvelle, une figura humaine qui est modifiée par le Christ, par Marie. Alors, il y a un art chrétien. Cet art chrétien n'est pas seulement du côté du sujet, parce que là, ce n'est que un mode, il est du côté de l'inspiration.